Alléluia. Gloire au nom du Seigneur, notre Dieu. Juste une parenthèse. Quand Sylvain il a dit, des fois on vient, on se réunit dans une école, puis là on sent que, ou peut-être certaines personnes sentent que c'est pas pareil, que c'est pas aussi vivant, ou c'est... Parce que des fois on s'habitue à un certain cadre pendant des années, dans une bâtisse, toujours pareil, on va aux réunions, puis on est habitué à une certaine routine. Puis quand quelque chose change dans la routine, bien là... On sent, on pense qu'on n'est pas dedans. Mais en fin de compte, là, il faut apprendre à combattre ça, ce feeling-là de contexte. Quand les premiers chrétiens ont été persécutés à Jérusalem, la Bible a dit qu'ils sont sortis de Jérusalem à cause de la persécution, puis sont allés s'installer ailleurs dans une ville puis dans un village. Ils étaient même plus dans leur maison, ils étaient plus dans leur famille, ils étaient plus à leurs ouvrages, ils étaient plus à leur église ou à leur réunion qu'ils étaient habitués, puis il a fallu qu'ils sortent à l'en dehors, puis on ne sait pas où ce qu'ils ont été, mais la Bible nous dit que les apôtres y enseignaient dans les synagogues puis dans les maisons. Fait qu'à quelque part, l'idée d'esprit de cellule maison, ça existait même dans ce temps-là, c'est rien de nouveau sous le soleil. Mais le fait de changer de local, c'est pas la même ambiance, ça avec qu'il faut apprendre à fonctionner dans ce nouveau système-là. Parce que, savez-vous une chose, quand on se réunit, Dieu y est présent. Dieu y est présent, que ce soit là-bas ou ici. Puis si j'ai à me présenter à la réunion pour venir louer le Seigneur, mais c'est pour venir le rencontrer lui, puis lui il a pas changé, fait que mon atmosphère devra pas avoir changé parce que je venais à la réunion pour rencontrer le Seigneur. Puis le fait d'être là à la réunion, mais là on peut le louer parce que il est encore le même qui était à l'autre église. Alléluia. Ça fait peut-être plus d'écho quand on parle, mais ça c'est pas grave, lui c'est à lui qui va s'habituer à ça. Nous autres, on a continué à offrir les mêmes louanges, puis même à s'exciter encore plus devant le Seigneur. Puis lui, le Seigneur va s'arranger avec de percevoir la louange. Amen. Seigneur, on te remercie pour le temps qu'on a ce matin ensemble. Seigneur, on est reconnaissant de nous donner cette liberté. Tu nous donnes cette liberté de pouvoir se rassembler dans ce local. Puis je te remercie, Seigneur, parce que tu es présent au milieu de nous. Je te remercie de te manifester au milieu de nous, en parlant par les chants, en parlant par le message. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Ouvre nos yeux. On a chanté un chant tantôt qui dit « Ouvre les yeux de mon cœur, Père ». Mais Seigneur, on va apprendre à te connaître. On va apprendre à connaître le monde invisible. On va apprendre à connaître tout ce qui se passe spirituellement dans cette vie afin de plus en plus efficace pour ton royaume. Parle à nos cœurs, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, on va avoir une suite du message sur les anges que je vous ai apporté la dernière fois. Parce que je crois, moi, que... C'est important qu'on soit conscient de ce qui se passe là. Ça peut avoir un impact dans notre vie. Un bon impact comme une mauvaise. Le monde invisible, il est réel autant que nous sommes réels. Puis des fois, on fait face à des individus, on vit des expériences, on vit des conflits, des combats, puis on voit où ça devient, puis on sait qu'est-ce qu'on a à faire pour se réconcilier, ça va bien. Mais quand on a affaire avec le monde invisible, c'est par la foi qu'on croit que ce monde-là est là, parce que la parole de Dieu nous le révèle. Puis c'est là qu'il est important qu'un enfant de Dieu comprenne qu'est-ce qui se passe pour savoir que quand ça va mal, puis qu'il n'y a pas réellement de raison que ça aille de mal, mais spirituellement parlant, il y a peut-être quelque chose qui se passe, puis si on veut régler ce problème-là, mais il faut utiliser les moyens que le Seigneur nous a donnés pour avoir la victoire. Amen. On a vu qu'il y avait différents types d'anges. Il y avait des chérubins, des séraphins, des archanges, des anges. Ça fait partie de la création invisible de Dieu. Ben Dieu, lui, voit tout ça. C'est nous autres qui le voit pas. C'était là avant la création de la terre et de tout ce qu'on vit, qu'on voit actuellement. On a appris aussi que Dieu avait établi des anges sur les territoires, sur les royaumes, comme au Québec. Au Canada, il y a des anges pour le Canada, il y a des anges pour le Québec, il y a des anges pour chaque municipalité. C'était dans son plan à Dieu que toute l'humanité soit gérée par des anges, que les anges étaient placés là comme pour régner sur les territoires. Dieu, il a travaillé beaucoup dans le cours de l'histoire par l'entremise de ses anges. C'est pas juste... L'histoire n'est pas comme juste laisser aller par le bon sens ou le mauvais sens que les humains ont, puis les laisser aller à eux-mêmes. Le cours de l'histoire a été modifié plusieurs fois par l'intervention des anges. Puis c'est Dieu qui a permis ça. Puis Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Dieu veut se servir de ses anges pour avoir un impact, une influence dans ce monde. À certains moments, ils ont été des porte-paroles pour Dieu. Comme dans Daniel 9, 23. L'ange a parlé à Daniel. Il dit, « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. » Et je viens te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Ici, dans ce verset-là, l'ange, il dit, quand tu as commencé à prier, la parole du Père, la parole de Dieu a sorti, lui, l'ange Gabriel, il a entendu cette parole-là, puis il est envoyé pour venir l'annoncer à Daniel. À quelque part, les anges ont joué une influence, une grande influence dans la direction de personnes individuellement, mais aussi de royaumes. Souvent, les anges ont apparu pour annoncer quelque chose, que ce soit au roi Nébuchadnezzar, que ce soit au roi David, que ce soit à Abraham. Tout le long de l'histoire, il y a eu des interventions d'anges qui apportaient un message. Même Marie était avertie, même Joseph était averti. Les anges ont aussi d'autres fonctions. Ils exercent les jugements de Dieu sur la terre, mais certains jugements de Dieu. Acte 12, 23 nous parle d'une circonstance où un roi qui a commencé à parler devant tout le monde, puis ce roi-là, il s'est enflé un peu d'orgueil, puis le peuple a commencé à louer que c'était la voix de ce roi-là, c'était pas la voix d'un homme, mais la voix d'un Dieu. Puis ça nous dit dans Acte 12, 23, au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, il expira rongé par des vers. Les anges ont servi à plusieurs reprises à établir ou à donner des jugements sur le peuple, sur des gens en particulier ou sur le peuple en général. Il y a d'autres moments où on voit que les anges ont frappé le peuple juif, puis ont été frappés d'hémorroïdes. À d'autres moments, tu vois qu'un ange est parti puis a massacré une peuplade au complet. Dans une seule nuit, toute la peuplade d'ennemis du peuple d'Israël a été massacrée par un seul ange. Tout le long de l'histoire, il y a eu des interventions des anges, puis que Dieu frappait à travers des anges. C'est comme si les anges sont placés en autorité au-dessus des hommes, puis c'est eux autres qui gèrent, qui sont les porte-paroles en Dieu et les humains, c'est eux autres qui gèrent les châtiments. Ils ont même, on va voir un peu plus loin, d'autres interventions qu'on fait. C'est les anges qui ont été envoyés avec Moïse pour sortir Israël d'Égypte. Acte 7, 30 à 32, ça dit, « 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. » Moïse, voyant cela, quand il a vu le buisson ardent, il fut étonné de cette apparition, puis ça nous dit que c'est un ange qui était apparu. Il était étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Puis au verset 35, « Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. » Dieu avait envoyé son ange pour intervenir directement à Moïse pour une révélation, pour lui apparaître. Le buisson est en feu, puis ça dit c'est un ange. La voix du Seigneur s'est fait entendre. Puis ensuite, Moïse était renvoyé à aller chercher le peuple, puis le sortir, puis être établi chef et juge d'Israël, accompagné de cet ange qui le suivait. Cet ange, on le voit dans les écrits, il y a des moments qui se manifestaient par une colonne de feu, d'autres moments c'était une colonne de nuée. La colonne de feu était pour éclairer la nuit, quand le peuple devait marcher dans le désert. La colonne de nuée, c'était comme une colonne de noirceur qui se faisait pour empêcher le peuple de voir et empêcher les autres peuples qui voulaient atteindre Israël pour les détruire. L'ange, il apparaissait comme une colonne de nuée, puis il faisait de l'ombrage. Puis il s'est manifesté à différentes reprises. Ça ne nous dit pas exactement toutes les fois que l'ange s'est manifesté, mais il y a plein de signes, plein de choses surnaturelles qui s'est manifestées, puis Dieu permet que ça soit fait par des anges. Puis il voulait que ça soit par des anges. Encore plus fort que ça, dans le prochain verset, Acte 7, 53, « Vous qui avez reçu la loi, » en parlant des Juifs, « Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée, Quand il y a eu une manifestation de la présence de Dieu sur la montagne, des anges étaient là. Les anges, même si ça dit « Dieu a écrit la table de loi », c'est vrai, Dieu l'a écrit de son doigt. Mais il y avait un ange qui était là pour parler à Moïse. Tout le long de l'histoire est géré par des anges. C'est des choses qu'on n'a peut-être pas réfléchi là-dessus, mais ça va vous laisser mijoter là-dessus. Réfléchissez sur la différente intervention de Dieu dans l'Ancien Testament, mais à travers des anges. Dieu avait promis dans sa parole de protéger Jésus par ses anges. Dans Matthieu 4:6, il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, » ça c'est le diable qui parlait, « jette-toi en bas, car il est écrit dans la parole de Dieu, « il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, puis te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Les anges avaient un rôle de protection sur les individus. Il avait un rôle de protection sur Jésus. Il devait garder Jésus pour que même pas un de ses os soit brisé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une promesse dans l'Ancien Testament qui disait « Aucun de ses os ne fut brisé ». Mais Dieu avait dit, ordonné à ses anges de veiller sur Jésus afin qu'aucun de ses os soit brisé, de peur que son pied ne heurte contre une pierre. Puis est-ce que ça s'est accompli tel que ça a été écrit? Exactement. Quand Dieu annonce de quoi, il envoie ses anges, puis ses anges sont assez puissants pour faire exécuter la tâche, puis l'arriver exactement comme que Dieu l'avait promis. Il y a des anges qui sont apparus à Jésus aussi, puis ils l'ont fortifié. Dans Luc 22:43, ça dit, « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Quand Jésus est en train de prier, est en agonie, il a besoin d'être fortifié, Dieu a envoyé un ange pour qu'il apparaisse à Jésus, puis qu'il l'a fortifié. Dans Marc 1:13, ça nous dit que Jésus a passé 40 jours dans le désert, tenté par Satan, puis il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Continuellement, les anges étaient auprès de Jésus, même si les humains ne les voyaient pas tout le temps, mais les anges accompagnaient Jésus dans son ministère. Les anges le servaient. Les anges faisaient du ministère pour Jésus. On peut même arriver à nous-mêmes à dire, on peut prier le Père pour qu'on soit fortifié par l'envoi de ses anges. David, il a demandé à Dieu qu'un esprit de bonne volonté le soutienne. Dans Psaume 51:12, David a dit, « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » À quelque part, les anges vont arriver à faire une intervention et en communiquant des suggestions à David, David aurait pu être soutenu par l'envoi de cet ange-là. Hébreux 1:14, ça nous dit, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Les anges, ils sont au service de Dieu. Quand Dieu l'envoie auprès de Jésus, quand Dieu a envoyé son ange auprès de Moïse ou auprès du peuple d'Israël, ou en tous les moments que les anges ont apparu, c'est un ordre que Dieu a envoyé, puis l'ange est au service de Dieu, et l'ange servait Dieu en accomplissant ce que Dieu lui avait demandé. Puis les anges, ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est qui ça qui doit hériter du salut? Non, c'est pas Jésus, c'est nous autres. C'est nous autres qu'on doit hériter du salut. Les anges exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Les anges sont en train de faire du ministère dans vos vies. Puis vous en rendez même pas compte. Ils sont envoyés comme serviteurs de Dieu. Ils sont continuellement autour de vous. Puis ils font du ministère pour vous. Daniel 10:18, ça nous dit... « Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. » Ça, c'est un ange qui avait l'apparence d'un homme. L'ange est arrivé à côté de Daniel, il a touché Daniel, puis il l'a fortifié. Juste en le touchant, il s'est passé de quoi de surnaturel, il y a de quoi que sorti de cet ange-là, a fortifié Daniel. Puis il me dit, dans le même verset, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. » C'est ça que l'ange... Il disait, en le touchant, « Que la paix soit avec toi, courage, courage, Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié. L'ange touchait Daniel, puis il communiquait quelque chose, puis il disait, tu es un homme bien-aimé, que la paix soit sur toi, courage, courage, puis à force de parler, il dit, comme il parlait, Daniel était fortifié. Les anges exercent du ministère sur chacun de nous sans qu'on s'en rende compte. Il y a des moments de restauration qu'on peut venir, puis ça peut être un ange qui est là pour nous fortifier. La Bible nous dit aussi que les anges ont visité des gens, puis ont mangé avec eux. Il y avait l'apparence humaine. Ils ont rentré chez les personnes, ils ont mangé avec les personnes. Puis qu'est-ce qui est encore plus fort que ça? C'est que dans le Nouveau Testament, ça nous dit, dans Hébreux 13, 12, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Puis c'est ça qui est encore plus surprenant, sans le savoir. La Bible nous exhorte à inviter des gens qu'on voit sur le bord de la rue, puis les inviter à venir manger chez nous. Puis ça nous dit, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, il y en a qui ont logé des anges sans le savoir. » Fait qu'il y a des anges qui peuvent être mis sur votre chemin, puis ils vont vous communiquer des bénédictions, même si vous en rendez même pas compte que c'est un ange. Vous pensez d'avoir amassé un itinérant, puis c'est un ange de Dieu, puis il avait quelque chose à vous dire ou à faire dans votre maison. Tiens, amen à cela. C'est des choses qu'on n'entend pas souvent. Mais il faut ouvrir nos yeux spirituels pour qu'on voie le monde invisible passer là. Par contre, là on va parler du côté contraire des anges, mais pas des anges de Dieu, en parlant des anges ennemis. Le diable, il est présentement le prince de la puissance de l'air, il est l'esprit qui agit dans les fils rebelles. Éphésiens 2:2, ça nous dit qu'on marchait selon le prince de la puissance de l'air, puis ça c'était le diable. C'est l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Autant que les anges de Dieu sont là pour bénir les gens, les fortifier, puis accompagner ceux qui doivent hériter du salut de Dieu, en même temps, il y a des anges qui sont en train de faire une influence négative dans ce monde, sont en train de contrôler le monde, sont en train de lier des gens, sont en train de faire que le monde marche selon sa pensée à cet esprit-là. Il dit, on marchait selon le prince de la puissance de l'air, puis la puissance de l'air, présentement, c'est le diable. Ces démons-là, ces anges-là, Satan et ses démons, agissent sur l'humanité entière en donnant des suggestions négatives, en donnant des touches négatives pour détruire le monde. C'est un esprit qui agit dans les fils de la rébellion. C'est quoi ça, les fils de la rébellion? Mais la rébellion a commencé à Adam et Ève, quand Adam et Ève se sont rebellés contre Dieu. Et toute la descendance d'Adam et Ève, c'est les fils de la rébellion. Puis les démons agissent, les esprits agissent sur les fils de la rébellion depuis le commencement. Depuis qu'Adam et Ève s'est rebellés contre Dieu, les esprits agissent et imposent leurs influences sur les gens depuis ce temps-là. La Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Fait que les anges de Dieu veulent de quoi de bon, mais les anges du mal contrôlent puis tiennent le monde sous sa puissance. Son but dans cette vie est de tout détruire, contrairement aux anges de Dieu qui voulaient construire pour bénir les gens. Jean 10, 10, Jésus parla de Satan. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'esprit de ce monde, l'esprit qui agit dans l'esprit de rébellion, qui agit dans l'humanité entière, agit pour voler le monde, pour les égorger et les détruire. Quand on voit du monde se suicider ou du monde tuer d'autres personnes, c'est l'œuvre de l'ennemi directement. C'est pas un ange de Dieu qui a touché cette personne-là. Pour attirer les gens puis les guider, quand je parle encore de Satan, il utilise le mensonge. Dans Jean 8, 44, Jésus a dit à des gens qui étaient devant lui, « Vous avez pour père le diable, puis vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Il a été meurtrier dès le commencement, puis il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Tout le long de l'histoire, le diable s'est servi du mensonge pour tromper tout le monde. Il a commencé avec Adam et Ève, il a infiltré du mensonge à Adam et Ève pour que Adam et Ève désobéissent à Dieu puis qu'ils mangent le fruit défendu. Puis tout le long de l'humanité, le diable se sert de mensonge, parce que le diable n'ira pas dire la parole de Dieu pour bien faire. Il va se servir même de la parole de Dieu pour essayer de tromper. Comme qu'on voit l'exemple que le diable a tenté Jésus, il a dit « Jette-toi en bas, il est écrit, ils vont donner des ordres à ses anges à ton sujet, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Mais là, c'était comme pour se servir de la parole, pour tromper encore dans une idée de mensonge. Jésus a répondu, il est aussi écrit, « Tu tenteras point, Seigneur ton Dieu. » Il ne faut pas oublier que l'ennemi, même s'il sert d'un verset, il s'en sert pour vous tromper. Il est important de la connaître, la parole de Dieu, pour le refuter ses dires. Quand tu l'écoutes, là, l'ennemi, ça semble vrai. Ça semble réel. 2 Corinthiens 11, 14 à 15, ça nous dit que « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Ça semble vrai. Il y en a qui ont eu des apparitions, comme une lumière qui les a apparues. Une voix les a parlé. Ils ont eu des rêves. Puis ça se fait passer pour Dieu, ou ça se fait passer pour un saint qui est mort, ou ça se fait passer pour ta grand-mère, pour ton grand-père, ça se fait passer pour un oncle décédé, ça se fait passer pour quelqu'un qui est proche de toi, puis il se dit, c'est moi, en parlant de la grand-père, ou de l'oncle, ou du même de Jésus, puis là, il te raconte des affaires qui t'amènent pas à glorifier Jésus, puis à suivre Jésus. C'est un mensonge. Le diable, il se déguise en ange de lumière. Puis ça semble vrai, puis c'est surnaturel, puis c'est du mensonge. Puis dans le même verset, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice, puis leur fin sera selon leurs œuvres. Il dit même ces ministres à Satan, ces pasteurs, le mot qu'on peut prendre, qu'on va comprendre, il y a des pasteurs qui appartiennent à Satan, puis qui sont déguisés en ministres de justice. Ça a l'air des vrais prédicateurs, des vrais pasteurs, même comparativement aux pasteurs de la parole de Dieu, de ceux qui appartiennent à Dieu. Les ministres de Satan, ils ont des personnes qui sont attitrées comme étant pasteurs de Satan, puis ils prêchent des mensonges pour tromper et lier les gens. Puis ça semble vrai. Sauf que, à quelque part, on va voir plus loin, plus tard dans prêche, comment discerner. Nous sommes déjà avertis par Paul de faire attention de ne pas être séduit. Dans 1 Timothée 4, 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs puis des doctrines de démons. C'est fort. Il y a des enfants de Dieu qui connaissaient la parole de Dieu, puis ça nous dit qu'il y en a qui vont l'abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs puis des doctrines de démons. Ils vont aller vers des pasteurs, des ministres de Satan déguisés en ministres de justice. Ils vont se tourner vers ces pasteurs-là pour aller écouter ce que l'autre a à dire, puis ils se font séduire par un esprit séducteur puis des doctrines de démons. Ils vont recevoir des enseignements provenant des démons directs. Puis ça semble vrai. C'est Paul qui nous dit que dans les derniers temps, il y en a qui vont l'abandonner la foi pour se tourner vers ça. Les anges de Dieu sont capables d'œuvres puissantes, comme qu'on a vu les différents miracles de l'Ancien Testament avec une intervention d'un ange. Mais les anges du diable aussi sont capables de faire des œuvres puissantes. Apocalypse 16, le verset 13-14, ça nous parle que des esprits de grenouilles, des démons, qui vont parcourir la terre pour rassembler les gens en faisant des grands prodiges et des miracles pour séduire les habitants de la terre puis les rassembler. Apocalypse 16, 13, 14. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre pour les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Des esprits de démons qui font des prodiges. Tant qu'on voit des miracles dans notre vie, faut pas dire « Amen » à tout ce qu'on voit. Faut pas penser que tout ce qu'on vit de surnaturel vient de Dieu. On peut voir des actions surnaturelles, des miracles, des œuvres d'étonnement, des choses qu'on aurait dit « Hey, hein, c'est Dieu qui peut faire ça. » Ça peut être trompeur, que c'est une séduction pour t'amener à croire à du mensonge. La Bible nous dit qu'il y en a des esprits de démons qui font des prodiges, puis ils vont être avec l'Antéchrist bientôt, qui vont être dans l'Antéchrist, ils vont être avec le faux prophète. Ça nous parle de... Puis ils vont être avec la bête, qui est le système politique, l'empire qui va être là, puis qui vont rassembler le monde pour faire la guerre contre Jésus. C'est pour cela qu'on doit apprendre le combat spirituel. C'est pour notre survie spirituelle. C'est beau dire « Alléluia, je suis sauvé, je mets sur une chaise, puis je pense que la vie chrétienne est accomplie au complet. » Faut se détromper. Quand on est assis ici, c'est pour recevoir d'autres instructions, recevoir d'autres forces que Dieu va nous toucher et qu'il va nous donner, que ce soit par l'entremise de ses anges, que l'entremise de son esprit directement, ça importe pas, mais qu'on se fortifie dans le Seigneur pour être capable de combattre le bon combat, de combattre dans le monde spirituel. Faut pas en combattre à point nu avec les gens. C'est pas un combat dans la chair contre tout le monde qu'on rencontre, mais c'est contre les esprits qui les guident, ces gens-là. On a dit qu'ils sont le monde entier est sous la puissance du malin, ils sont guidés par le malin. Mais quand tu arrives à rencontrer de l'opposition dans le monde, c'est pas pour te combattre avec tes poings, c'est pour combattre contre l'esprit qui guide cette personne-là. Éphésiens 6, 12. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ceux autres qui règnent présentement dans le monde, puis qui règnent sur chaque individu qui ne sont pas encore convertis au Seigneur. Puis quand tu fais face à un de ces individus-là, tu fais face pas rien qu'à l'individu, tu fais face à tout le monde infernal qui le guide, cette personne-là. Puis c'est contre ces puissances-là qu'il faut que tu combattes. Il faut les libérer de leurs liens parce qu'ils sont liés à cause des pièges de l'ennemi. C'est à cause des pièges de l'ennemi que ces gens-là ils sont liés. 2 Timothée 2:25. Il faut qu'un serviteur du Seigneur il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Toute l'humanité entière, présentement, tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, ils ont été séduits, ils ont tombé dans des pièges que l'ennemi leur a tendus, puis le diable s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Puis il faut qu'un serviteur du Seigneur soit capable de parler avec douceur à ces gens-là, dans l'espérance que Dieu les amène à repentance, puis là, ils vont connaître la vérité, puis là, ils vont pouvoir se dégager eux-mêmes des pièges que l'ennemi les a asservis. Est-ce qu'il y en a qui l'ont pas compris, celle-là? Vous devez travailler à libérer les captifs. Toutes les gens qui sont là, ils sont liés, puis ils savent même pas, ils sont dominés, puis ils sont soumis à la volonté du diable, sans s'en rendre compte, même si c'est des bons gars, des bonnes personnes, en bon canadien français, des bons yobs. Mais ils sont menés vraiment par le diable, puis ils s'en rendent même pas compte. Ils sont pas menés par l'Esprit de Dieu, ils sont menés par le diable, puis ils ont besoin de connaître la vérité. Puis Dieu doit les amener à la repentance pour qu'ils se dégagent eux-mêmes des pièges. Chaque individu doit réaliser qu'ils sont tombés dans des pièges du diable et qu'ils doivent se repentir et se dégager eux-mêmes du piège. C'est pas l'affaire des autres de libérer une personne. C'est la personne qu'elle réalise qu'elle est prise d'un piège, puis que là, qu'elle demande de l'aide, puis là, elle va s'en sortir. Si elle n'a pas compris ça, elle va toujours tourner dans ses péchés. Il faut combattre pour nous-mêmes en premier et entreprendre une guerre pour les autres après. Facile d'aller combattre pour les autres tout le temps. Jésus, dans Matthieu 7, 3, 5, il nous dit, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. » Jésus dit, « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Il y a une vérité spirituelle là-dedans. Spirituellement, on doit apprendre, personnellement, à gérer les différentes difficultés qu'on vit, à trouver les solutions pour s'en sortir. C'est ça qui est d'enlever la poutre qui est dans notre œil. Quand on aura trouvé les solutions pour sortir de nos poutres qui nous... Une poutre, c'est un bim. On a un bim dans l'œil, puis on est là qu'on check tout haut la petite paille qui est dans l'œil de l'autre, puis on a un bim dans l'œil. Jésus dit, apprends comme premièrement à enlever ton bim que tu as dans ton œil, puis après tu sauras comment faire pour enlever les pailles dans les yeux des autres. On doit apprendre spirituellement à mettre en pratique personnellement, à vivre des victoires personnellement, à être délivré en utilisant les armes de Dieu et en apprenant le combat spirituel pour nous-mêmes en premier, puis après ça, on va être efficace pour aider les autres qui nous entourent. Tiens, on mène à cela. Ça enlève l'idée à ceux qui partent en guerre sur les péchés des autres plutôt que d'analyser leurs propres péchés. Nous pouvons être debout aujourd'hui et perdre de vue le combat demain si nous nous laissons ramollir par les mensonges de l'ennemi. On peut être fort dans le Seigneur aujourd'hui, puis être ramolli demain, si on se laisse ramollir par l'ennemi. Moi, j'ai déjà vu un moment donné, j'étais dans une cellule maison, puis j'avais un groupe qui était ensemble, puis on pratiquait de prier pour des personnes qui étaient liées d'esprit. On rencontre une personne qui nous dit qu'elle avait un esprit qu'elle sentait comme c'était un serpent dans elle. Ça, c'était une personne qui n'était pas au Seigneur. Là, elle nous a demandé de prier pour cette personne-là. J'ai été là avec trois personnes. On a commencé à louer le Seigneur. J'ai commencé à prier. La personne s'est jetée à terre. Elle s'est mise à vomir. Puis l'esprit est sorti. Puis après ça, elle me disait que j'y avais enlevé. J'ai dit, c'est pas moi qui te l'ai enlevé, c'est le Seigneur qui te l'a enlevé. Dans la même semaine, un des participants de ceux qui avaient participé au combat, dans la même semaine, il s'est fait influencer par une pensée négative. Puis il a quitté la cellule pour s'en aller ailleurs. Tout ça pour vous dire que tu peux être fort aujourd'hui, tu peux marcher dans le Seigneur, tu peux être combatif. Fais attention que demain, tu ne te laisses pas emporter juste par une suggestion de l'ennemi. Que cet esprit-là ne revienne pas et dise certaines choses, puis que là, tu es tout ébranlé, puis tu commences à faire le trouble ou que tu t'éloignes du Seigneur. Faut prendre garde de pas jeter. Il y a un des versets qui dit justement de se revêtir des armes de Dieu pour pouvoir résister dans le mauvais jour et pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Tu peux résister quand ça va mal, mais après ça, quand tu vas avoir tout surmonté, il faut que tu tiennes ferme. Il faut que tu continues à être combatif. Sinon, si tu relâches ta fermeté, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas piquer une débarque, puis l'ennemi, il va t'avoir, puis tu vas retomber. Peut-être plus bas même que où ce que tu étais. Il faut réaliser notre position présentement. Je parle à des enfants de Dieu, je parle à chacun de vous. Vous devez réaliser votre position qu'on est continuellement influencé par le monde, par notre chair et par les esprits. Puis si on le réalise, c'est là qu'on va pouvoir commencer vraiment à combattre le bon combat. Premièrement, en tenant notre chair assujettie pour ne pas se livrer à toutes ses passions. On va dire non à toutes les modes, toutes les tendances de ce monde qui essaye de nous influencer. Puis on va être capable aussi de combattre les suggestions sataniques qui peuvent passer à travers d'une personne qui vient du monde ou même de quelqu'un de plus proche que ça. Parce que des fois, l'ennemi peut parler par la bouche d'un frère aussi. Puis on a à combattre contre les suggestions négatives qui viennent des esprits. Notre esprit parce qu'on est composé d'un esprit, d'un âme et d'un corps. Notre esprit communique avec Dieu. C'est par l'esprit, notre esprit, Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est dans ton esprit que tu rentres en présence de l'Esprit de Dieu. Vrai? Mais le monde invisible, c'est tout des esprits. Puis les esprits parlent continuellement à notre esprit. Notre esprit a des oreilles pour entendre le monde spirituel. Quand un ennemi vient puis tu donnes une suggestion, mais il te parle de l'esprit qui est à ton esprit qui te communique. Il te parle pas avec tes oreilles humaines, il te parle dans ton esprit. Notre esprit a des oreilles pour entendre le monde spirituel. Puis quand on se fait envoyer des suggestions sataniques, c'est une communication qui nous fait directement à notre esprit. Mais même si on les entend, on doit se fermer nos oreilles ou leur dire de se taire. Faut pas laisser alimenter dans notre esprit des suggestions sataniques. Puis commencer à réfléchir là-dessus, puis commencer à méditer à ça, puis commencer à... La minute qu'on entend quelque chose qui n'est pas de Dieu, on doit bloquer nos oreilles spirituelles, puis on doit y dire à cet esprit-là de se taire. Comprenez-vous? C'est à vous, chacun de vous, de combattre contre ces esprits-là, contre ces suggestions-là. Il faut apprendre à s'affirmer puis dire non aux mauvaises idées. Je ne sais pas comment vous êtes personnellement. Ben moi, personnellement, dans ma chair, ça arrive souvent que ma chair est attirée, surtout en été, à regarder les jolies dames. Puis il n'y a rien d'étonnant là-dessus, c'est naturel. Sauf que je dois combattre là-dessus. Je ne dois pas laisser, même s'il y a une suggestion que là, tu as vue, elle est belle, puis elle, tu sais, toi, on peut laisser aller notre esprit. Il faut chasser ça, cette pensée-là, puis résister à ça au nom de Jésus. C'est notre devoir de combattre contre les suggestions sataniques. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Ah oui, c'est vrai. Là, tu commences, puis là, tu laisses aller ton imagination, puis là, il t'emmerde. Là, tu es rendu quasiment couché avec la personne. Je sais que peut-être vous n'êtes pas toutes comme ça. Ben moi, je suis humain, puis moi, ça m'arrive. Mais est-ce qu'il y a un « amen » à ça? Ouais, ouch! C'est les esprits qui parlent à votre esprit, puis qui vous mettent une tentation devant vous. Il faut apprendre à s'affirmer, puis dire non aux mauvaises idées. Jésus a dit que c'est dans le cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ça, c'est dans Matthieu 15-19. C'est dans le cœur de l'homme que viennent tout ça, mais souvent, c'est alimenté par l'ennemi. Quand Jésus nous a dit ça, c'est juste pour nous faire réaliser que tout se passe dans votre cœur, dans votre intérieur. Si vous méditez du mal, c'est dans votre intérieur que vous méditez du mal. Puis vous devez veiller sur votre cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là que sont les sources de la vie. C'est ça que ça nous dit dans l'Ancien Testament. L'ennemi va vous en mettre des suggestions, mais si tu te laisses aller, il va sortir des mauvaises pensées, des meurtres, des adultères, des impudicités, des vols, des faux témoignages, ça c'est des menteries, des calomnies. Il faut faire attention à la subtilité des esprits. Parce que c'est pas, ils n'apparaissent pas d'une manière extraordinaire, puis avec la lumière qui éclaire la pièce pour nous conter une petite suggestion satanique. C'est subtil. Tu t'en rends même pas compte si tu ne fais pas attention à ce qui se passe dans ta pensée. Juste un exemple. Mettons là, ceux que vous avez un conflit, le mari puis la femme ensemble. Vous venez juste de vous pogner pour une argumentation. Quand vous êtes séparés pendant les quelques secondes avant votre réconciliation, combien de fois qu'il y a d'autres suggestions qui viennent? Là, je commence à être écœuré, ça fait assez longtemps, moi, te la balancer. Là, il t'en met. C'est toujours la même affaire, je passe mon temps à y répéter, je vais le bouder, je vais y toffer ça encore plus longtemps. Tu sais? Puis si on se réconcilie pas pour mettre un terme à ça, puis ça dure une journée, une semaine, un mois, un an. Chaque fois que tu vois la personne, là, t'es dans ta tête, t'es un mur rentre dans toi, puis tu l'haïs, tu l'évites, puis tu sais, ça peut être entre deux frères et sœurs. Pour une niaiserie, un petit conflit, vu qu'il n'a pas été réglé, les esprits vont vous en mettre des idées, vont vous alimenter des adultères, des meurtres, des... Vous savez, il y en a qui ont pensé à tuer. Juste le fait d'haïr quelqu'un, vous l'avez tué. C'est ça que Jésus a dit. Quand vous vous mettez à haïr quelqu'un, là, vous ne voulez pas le voir, contraire à l'amour. L'amour, c'est qu'on veut le voir, puis l'haïr, c'est qu'on veut le fuir. Mais vous êtes en train de le tuer, spirituellement parlant. Vous êtes en train d'haïr. Vous êtes en train de tuer. Il faut faire attention aux subtilités des esprits qui essayent de nous garocher des idées pour essayer d'amplifier la situation. Je vais vous en dire une bonne dans la Bible. Savez-vous, quand Judas il portait la bourse, la Bible nous dit qu'il portait la bourse des 12 apôtres, mais que ça nous mentionne que Judas il était voleur et il prenait de l'argent dans la bourse. Puis si on suit la chronologie de ces événements-là, Judas, là, il un moment donné, il y a une femme qui arrive avec un vase d'albâtre. Puis elle dit, elle rouvre, puis elle répand sur les pieds de Jésus. Puis là, il a commencé à s'indigner, puis à critiquer, puis il a dit, on aurait pu vendre ça 300 deniers, puis on aurait donné l'argent aux pauvres. Puis ça mentionne dans le même verset, c'est pas parce qu'il se mettait en peine des pauvres, c'est parce qu'il mettait l'argent, il prenait de l'argent pour lui, de l'argent qui était du pote de tout le monde. Puis quand il venait de se faire revirer de bord par Jésus, il dit, vous avez toujours des pauvres avec vous autres. Elle a fait, elle m'a embaumé avant le temps. Là, ça nous dit que, suite après, Judas est allé voir les sacrificateurs pour s'entretenir combien ce qu'eux autres étaient prêts à y donner pour livrer Jésus. Il était en manque d'argent, Judas. Là, il a besoin d'argent, il est allé voir les sacrificateurs, c'est entendu 30 sicles d'argent. Mais ce qui est le plus fort du verset, c'est que pendant le souper, Jean 13, 2, ça nous dit, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Dans le souper, le diable avait déjà inspiré la pensée à Judas. Il avait déjà dit, livre Jésus, tu vas te faire de l'argent. Le diable, il avait suggéré cette pensée-là, puis c'était avant le souper. C'était juste après l'événement où ce qu'il avait été, entre l'événement qu'il n'avait pas eu son argent, puis l'événement qu'il était au souper, c'était l'événement, il y avait une inspiration d'aller livrer Jésus. Puis ça venait de qui? Du diable. Qu'est-ce qui est encore le plus fort? Avant le souper, il y avait déjà l'inspiration de le vendre, puis pendant le souper, dans Luc 22, 3, ça nous dit, or, ça c'est quand Jésus a tendu le morceau trempé à Judas. Or, Satan entra dans Judas. Puis là, Jésus a dit, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Là, je vous mixe deux versets, là. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Puis là, ça, dans le même contexte, il y a une autre chose, ça nous dit, le diable y avait suggéré. Puis là, Jésus il a tendu un morceau de pain trempé. Il dit, celui à qui je donne un morceau, c'est lui qui va me livrer. Puis quand il a donné le pain, Satan entra dans Judas. Puis Jésus dit, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Là, il est allé livrer Jésus. Voyez-vous, il y a comme deux étapes dans cette scène-là où ce que l'ennemi peut travailler dans une personne. La première, en suggérant une œuvre à faire, une chose à faire. Puis si tu te livres à ça, tu es en train d'obéir directement au diable. Le diable peut utiliser quelqu'un pour nous parler, et même quelqu'un de proche, comme je vous disais tantôt. Jésus est arrivé à un moment donné qui a refuté une parole de Pierre en chassant Satan, qui était en train de parler à travers de Pierre, qui était un des apôtres. Matthieu 16, 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Pierre est un apôtre. Pierre est un homme choisi par Jésus, faisait partie des 12 apôtres. Comme Judas est un apôtre, faisait partie des 12 apôtres. Ils ont vécu des œuvres surnaturelles avec Jésus. Ils ont fait des miracles en priant pour les malades puis chassé des démons. Puis ils ont prêché l'Évangile. Puis ils ont aussi parlé dans le nom de Satan. puis ils ont fait des œuvres dans le nom de Satan. Ça, c'est des exemples que le Seigneur nous a permis qu'on aille pour qu'on fasse attention à qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on fait, que ce ne soit pas des suggestions sataniques. On doit prendre toutes les armes de Dieu pour combattre l'ennemi. Dans Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On n'a pas à lutter contre n'importe quoi. Il est rusé, le diable. Depuis le début de la création, qu'il est rusé. Il vient par des moyens subtils, ça paraît même pas. Puis il a de l'expérience depuis le temps qu'il travaille. Puis nous, il faut prendre les armes de Dieu. C'est pas, comme je disais tout à l'heure, on ne vient pas à l'Église pour rester assis, pour se laisser aller puis dire notre vie chrétienne est accomplie. On a à prendre des armes pour combattre l'ennemi, pour combattre ses ruses, ses pièges, ses tentations. Parce que c'est sûr qu'il va venir. Puis les armes qu'on combat, elles sont pas charnelles. 2 Corinthiens 10, 5, 4, 5. C'est pas des armes dans notre chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. On renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, puis nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les armes qu'on combat, c'est bien plus puissant qu'on pense. Le croyez-vous que vous avez à votre disposition des armes? Le croyez-vous que ces armes-là, si vous les utilisez, vous allez être capable de renverser des forteresses? Si on parle des forteresses de l'ennemi, l'homme fort que la Bible nous parle, qui sont les esprits qu'on peut lier, c'est des forteresses qui sont autour de chaque individu, puis qui bloquent les pensées de cette personne-là, puis qui les empêchent de voir la vérité. Puis les armes que vous avez, ça renverse les forteresses qui protègent ce gars-là, c'est des forteresses de l'ennemi. En plus, ça renverse toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ces hauteurs-là, c'est qui? C'est tous les démons. Vous avez des armes entre vos mains, qui sont dans la parole de Dieu, qui sont dans l'Esprit de Dieu. C'est des armes pour combattre, pour changer les pensées de tout le monde qui vous entoure. Parce que vous allez abattre les forteresses, vous allez lier les hauteurs qui agissent sur ces gens-là, puis vous allez être capable d'amener les pensées captives à Jésus. Le croyez-vous? Moi, je pense qu'on le crée pas, parce qu'on le fait pas souvent. Combien de fois on prie pour lier les esprits qui agissent sur une personne? Ça fait partie des armes de Dieu, à part des autres, qui est l'épée de l'esprit, qui est le bouclier de la foi, la casque du salut, la cuirasse de justice, être saint de la ceinture de vérité, puis avoir à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. C'est pas juste des mots, c'est quelque chose qui doit nous équiper, être rempli de son zèle, avoir un cœur juste, puis ta cuirasse de justice, avoir le casque du salut, ton esprit toujours branché sur ton salut et le salut en Jésus, t'as un bouclier de ta foi qui te protège contre les attaques, puis t'es conscient que t'en as des attaques, puis à cause de ta foi, t'es bloqué tout, puis t'as une épée qui est l'épée de l'esprit, qui elle te permet d'attaquer l'ennemi. Il est écrit, puis là tu frappes en prononçant la parole de Dieu, tu renverses la forteresse qui agit sur la personne, puis tu lis l'esprit qui est en arrière, puis tu le mets en déroute. Vous avez déjà entendu la parabole que Jésus dit, que lorsqu'un homme est lié, puis que l'esprit s'en va, l'esprit cherche des lieux pour habiter. Comme je vous disais, ils ont des territoires, puis ils peuvent pas aller n'importe où. Puis quand il y a une personne qui a des esprits dans sa vie, tu peux faire le ménage, chasser l'esprit. L'esprit s'en va dans les lieux arides, il cherche du repos, il n'en trouve pas. Il s'en va chercher d'autres esprits, il rentre dans personne, puis il dit que la dernière condition de cet homme est pire que la première. Mais pourquoi qu'il revient et qu'il rentre? Mais la porte est en cours. Ça dit que sa maison était vide. À quelque part, il faut pas que notre maison soit vide. Il faut que notre maison soit remplie de la puissance de Dieu et remplie de la parole de Dieu, puis être capable de refuter cet ennemi-là. Quand je vous disais tout à l'heure, il fallait que la personne vienne à repentance pour réaliser son état, puis qu'elle-même se dégage de ses liens. Mais la personne, si elle est vide, l'esprit va revenir, puis elle n'a rien compris. Mais si la personne réalise ce qui s'est passé, elle va prendre l'autorité dans le nom de Jésus, puis arrière de moi, Satan, puis là, tu le mets l'esprit en déroute, puis ils ne reviendront pas faire leur demeure. Parce qu'ils cherchent cherche à revenir. Tu chasses un esprit de là, il cherche un spot de repos, puis il n'en trouve pas. Il veut revenir où ce qui était, parce que sa demeure était là. C'est là qu'il avait été ouvert l'accès à pouvoir habiter. Son endroit était dans la maison de cette personne-là. Puis on doit réaliser qu'on a à combattre les esprits, ça peut être les esprits de nos ancêtres, les esprits qui ont resté rentrés, puis c'est dans la famille. C'est là, ça agit sur nous autres. Puis on dit, oh, c'est les gènes. Ça peut être des maladies, ça peut être des liens. Puis on subit ça, puis on vit ça, puis on réalise pas qu'on a des armes pour combattre contre l'ennemi. Mais on les a, ces armes-là, puis ils sont dans le nom de Jésus. Puis on doit réaliser qu'ils sont là, puis on doit les saisir et frapper avec ça. Il y a, tiens, amen à cela. Gloire à Dieu. Savez-vous qu'il y a des chrétiens qui ont laissé agir le diable dans leur vie? Je vais parler d'un exemple que Paul nous dit, il parlait aux Corinthiens. Paul ne voulait pas que les Corinthiens soient en communion avec les démons. 1 Corinthiens 10, 20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Il parlait des viandes sacrifiées, à des idoles. Ce qu'on sacrifie là, on est en train de sacrifier aux démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Pourquoi qu'il a réécrit ça si c'était pas possible qu'un chrétien soit en communion avec des démons? C'est possible qu'un chrétien soit en communion, en une relation parfaite quasiment, qu'il s'entend bien, qu'il l'accepte, qu'il tolère, puis qu'il aime ça vivre là-dedans. Des démons, des fois, qu'ils procurent une satisfaction. Démons de sexualité, c'est pas d'insatisfaction. Des passions sexuelles dénaturées, là, c'est pas une souffrance, la personne qui vit ça. Il aime ça. Mais il tolère ça, puis il aime ça, puis il veut rester dedans. Puis il y a des chrétiens qui vivent, ça c'est un exemple, mais il y a des chrétiens qui vivent dans des mensonges tout le temps, en train de compter des mensonges. Ils sont liés par un démon, parce que c'était ce démon-là de mensonges. Le gars, celui, ça fait son affaire, il pense que c'est drôle de faire des jokes de mensonges. Ou ça peut être de vol. Il y en a qui sont chrétiens, continuent à voler. Il y en a qui sont chrétiens, continuent à blasphémer en sacrant, en prenant le nom du Seigneur. Il y en a qui sont... On peut vous en nommer toute une liste. Il y a des démons rattachés au péché, puis on les tolère. Puis Paul nous dit qu'il ne veut pas qu'on soit en communion avec des démons. Les Corinthiens, ils avaient laissé rentrer même un autre esprit dans l'Église. 2 Corinthiens 11:4. Car si quelqu'un vient à vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. À quelque part, les Corinthiens avaient laissé rentrer un faux évangile, ils avaient laissé rentrer un autre Jésus, ça va de l'aide des paroles, il parlait de Jésus pourtant, ce gars-là, oui, mais quel Jésus? Il y a plein de faux Jésus, puis il y a des fausses doctrines en arrière de ce faux Jésus-là. Puis en plus, ils ont supporté d'accepter un autre esprit que celui qu'ils avaient reçu. C'est quel autre esprit? Moi, j'en connais pas d'autre. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit, là. J'en connais rien qu'un Dieu. Si on supportait de recevoir un autre esprit, c'était qui? C'est un esprit de faux prophète, un esprit de faux pasteur qui se déguise en pasteur de justice, qui a infiltré les Corinthiens, les a trompés par des faux enseignements, puis a agi librement dans cette église-là pour tromper tout le monde, puis faire du trouble. Puis Paul les a repris, il dit « Lâchez d'aller vers les viandes sacrifiées aux idoles, je veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Puis il dit « Vos fausses doctrines, les faux docteurs qui vous séduisent. » Il dit « Moi, j'ai vécu, là il parle de tout ce que j'ai vécu pour comparer à ces super apôtres que ces gens-là sont en train de se faire enseigner par ces super apôtres-là, supposément des chrétiens. » Puis c'était pas des chrétiens, puis il dit « Ça, c'était un autre Jésus, c'était un autre évangile, puis c'est d'autres esprits que vous êtes en train de laisser rentrer. » Faut prendre garde parce que même dans les églises d'aujourd'hui, il y a des faux esprits qui rentrent dans les églises, qui sont pas l'esprit de Christ. Puis c'était par l'imposition des mains de faux docteurs, des ministres de Christ, puis ils imposent les mains aux gens, puis les gens reçoivent des manifestations surnaturelles, il se passe des affaires, puis tout le monde dit amen. On est averti aussi de ne pas donner d'accès au diable. Dans Éphésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. J'ai parlé un peu de qu'est-ce que les anges de Dieu étaient, puis qu'est-ce qu'ils faisaient. Là, j'ai parlé de qu'est-ce que les anges démoniaques font. Puis ça, c'est dans le but qu'on se rouvre les yeux et les oreilles, puis qu'on soit vigilant pour la suite de notre vie. Mais comment faire pour discerner les faux des vrais? Ça, c'est la question. Premièrement, il faut sonder les esprits pour reconnaître les vrais. 1 Jean 4, 1, 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ qui est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist que vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Déjà dans le temps de Paul, l'esprit d'Antéchrist était déjà dans le monde. Un esprit qui s'oppose au Christ. C'est sûr que là, il dit, tu vas avoir des miracles, tu vas avoir des signes. Mais il dit, ajoute pas foi à tout esprit. Dis pas que c'est l'esprit de Dieu à tous les fois que tu vois une œuvre surnaturelle. Il dit, sonde les esprits, éprouve-les, l'esprit qui est en train de se manifester, pour savoir s'il est vraiment de Dieu. Est-ce qu'il confesse que Jésus, qui était Dieu, est venu en chair? Premier test. Il confesse-tu? Il veut-tu vraiment vivre pour Jésus venant en chair? Il approuve-tu ce ministère-là? T'sais, il est-tu en sa doctrine, son enseignement, cet esprit-là, est-tu tourné vers Jésus est venu? Ça veut dire qu'il part du ciel en tant que créateur, puis il est venu en chair. Premier test, sondez-les dans le nom de Jésus. Je t'ordonne de te nommer. Ça, Jésus l'a fait. Dans d'autres moments, à part de quel est ton nom, tu confesses-tu que Jésus est Dieu? Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, il va être mélangé et il ne sera pas capable de dire oui. Puis ça fait. J'ai déjà vécu l'expérience. Puis j'ai déjà même testé aussi comme une personne manifestait le don des langues. Puis j'ai dans le nom de Jésus, j'ai demandé de se manifester de s'identifier, mais de confesser ouais si c'était de Dieu ou quoi là. Puis la personne elle m'a dit qu'elle a entendu vraiment dans l'esprit qui l'animait dire oui je en voulant dire qu'il confessait que Jésus était Dieu. Ça lui a dit ça en dedans. La personne était capable de le dire. Donc la source de son de l'esprit qui l'animait était l'esprit de Dieu. Mais ça peut arriver qu'il y en a qui parlent en langue par d'autres esprits. J'ai déjà entendu des personnes parler en langue par Marie et prophétiser par Marie. L'esprit de l'Église catholique n'est pas le Saint-Esprit. Il peut se passer des manifestations surnaturelles, puis qui ne sont pas les celles de l'Esprit de Dieu. Les gens prophétisent par un saint, par un mort, par d'autres choses, ou par des anges. C'est de même qu'on les sonde. D'autres moyens pour sonder, des anges de Dieu sont soumis à sa parole, à la parole de Dieu. J'achève. 1 Jean 4, 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Quand tu amènes la sainte doctrine à quelqu'un, tu lui parles de Jésus, tu lui parles de toute la sainte doctrine. Il dit, si la personne t'écoute, c'est de Dieu. Si la personne ne t'écoute pas, c'est parce qu'elle est menée par l'esprit de l'erreur. Elle n'est pas capable d'admettre ce que tu es en train de dire là. Elle ne dira pas oui. Elle va être mélangée, puis elle va essayer de s'estiner. Puis c'est l'esprit de l'erreur qui est en train d'agir dans sa vie. Fait que si vous voulez sonder, parlez de Jésus, parlez de sa parole, vous allez voir sa réaction s'il est du bord de Dieu ou si elle ne l'est pas. Dans Galates 1, 8. Mais quand nous-mêmes, en parlant de Paul, nous-mêmes, ou quand qu'un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Ça veut dire que c'est possible qu'un ange du ciel apparaisse à des gens pour annoncer un autre évangile. Comment est-ce qu'il y en a qui ont eu des apparitions, quand l'apparition de Fatima, là? Des apparitions de Marie, pour annoncer quoi? Ça fait partie de l'ensemble de la séduction que les esprits agissent sur les gens pour les lier davantage. Leur jugement aux démons, il est déjà donné, puis leur lieu de punition, il est déjà créé. Dans Matthieu 25, 41, Jésus qui parle là, qui dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Le feu éternel, ce que le monde d'aujourd'hui appelle l'enfer, c'était créé pour punir le diable et ses anges. C'est pas un party de plaisir qu'il va avoir, c'est des tourments au siècle des siècles. Puis ça nous dit que des gens aussi qui vont se ramasser là, des gens qui ont été séduits par le diable, qui ont marché avec le diable, qui ont été rebelles à la parole de Dieu toute leur vie, Jésus va les mettre à sa gauche, il va leur dire, allez maudits dans le feu éternel. Ils vont aller au même endroit que le diable et ses démons vont être jetés. N'oubliez pas que les anges de Dieu sont les plus forts, que les anges de Dieu y combattent avec nous. Apocalypse 19, 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, puis il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu. Car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Mais il dit, garde-toi de m'adorer, je suis ton compagnon de service, et ainsi qu'à tes frères, de ceux qui gardent les commandements de Dieu. On a des anges qui sont notre compagnon de service, puis ils combattent avec nous. Jésus, plus notre volonté soumise au plan de Dieu, appuyée par la volonté des anges de Dieu contre la volonté rebelle, cela, ça devient une puissance d'attaque incroyable. Il faut croire que nous, ensemble, quand on est unis dans un seul esprit avec l'Esprit de Dieu et avec la puissance des anges de Dieu, quand on est unis ensemble pour accomplir la volonté de Dieu, c'est une puissance incroyable. Si on marche, il dit, si le sel perd sa saveur, il ne reste plus qu'à être jeté dehors puis foulé aux pieds par les hommes. Puis il dit, vous êtes le sel de la terre. Si vous perdez votre saveur de sel, il ne reste plus qu'à vous prendre et à vous laisser fouler aux pieds par les hommes. À quelque part, il y a une vérité spirituelle là-dedans qui nous dit, tu veux-tu arrêter d'être foulé aux pieds par les hommes? Sois le sel que tu es supposé d'être, aie la saveur du sel, puis tu vas pouvoir marcher au-dessus des serpents et des scorpions, et rien ne pourra vous nuire. L'ennemi n'a aucun droit sur quelqu'un de recouvert du sang de Jésus. Apocalypse 12, 10, 11. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Vous êtes dans la victoire grâce à deux choses. » À cause du sang de l'agneau, il a payé le prix, mais aussi à cause de la parole de votre témoignage. Quand il arrive des situations, ce que vous devez combattre, quelles sont vos paroles? Vous allez être dans la victoire à cause de la parole de votre témoignage. Il faut que vous prononciez les versets de la parole de Dieu. Il faut que vous preniez l'autorité dans le nom de Jésus. Il faut confesser. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu le crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts, tu seras sauvé. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Nous devons confesser, quand tu arrives avec une tentation contre le diable, Jésus a dit, « Arrière de moi, Satan! » D'autres moments, il a dit, « Retire-toi, Satan! » Puis là, il sortait des versets de la Bible pour appuyer son autorité dans sa parole. Puis c'est par la parole de votre témoignage. Confessez les versets de la Bible pour avoir de la victoire. Soyez ferme puis prenez votre position en Jésus et dites à l'ennemi, laissez-les pas entrer dans vos par des suggestions. Dites à l'ennemi, arrière de moi Satan, je veux pas rien savoir de tes pensées, c'est des pensées un peu. Vous allez avoir la victoire. Vous allez marcher dans la victoire. Ça fait partie des armes de Dieu pour combattre et avoir la victoire sur le monde des ténèbres. Nous sommes dans la victoire à cause du sang de Christ. En Jésus, on est dans une autorité supérieure que tout le royaume satanique à cause de l'Esprit du Créateur est en nous. 1 Jean 4:4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. On a la victoire parce que celui qui est en nous, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe quel esprit. C'est l'esprit du Créateur qui est en nous. L'esprit qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous savez qu'il va y avoir une grande séduction qui va mener dans le monde entier. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12, en parlant d'un antéchrist. L'apparition, et là écoutez bien ce qui va être écrit là. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Cet antéchrist-là qui va paraître, il dit l'esprit de l'antéchrist était déjà dans le monde dans ce temps-là, puis il combattait contre la vérité. Mais l'antéchrist, là, celui qui va paraître dans pas grand temps, qui va être en tête du gouvernement mondial, l'antéchrist, il va faire son apparition par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodigues mensongers. Il va en avoir des œuvres surnaturelles, des manifestations puissantes, avec aussi toutes les séductions de l'iniquité. Il va y aller aussi en séduisant le monde par le péché. Ça, le monde se font séduire présentement en autorisant les homosexuels. En autorisant l'avortement, ça semble beau, ça semble l'harmonie, ça semble bon. C'est une séduction que l'ennemi séduit le monde, puis c'est des séductions de l'iniquité. Mais là, c'est les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dans cette période-là, le diable va paraître, il va mettre sur pied le gouvernement mondial, il va mettre en tête l'antéchrist, ça va être par sa puissance, ça nous dit qu'il va y avoir un faux prophète qui va être avec lui, qui va faire des miracles, puis ça nous dit que c'est par des miracles, des signes et des prodiges, pour attirer les nations à croire en cet antéchrist-là. Puis tous ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés, ils vont être séduits, puis ils vont embarquer dans la séduction de péché-là, puis ils vont être embarqués dans la séduction des miracles qui vont se produire, puis ils vont adhérer, puis ils vont adorer cet antéchrist-là. Dieu te dit à toi qui s'accroche à lui et à sa parole, là, Apocalypse 3:10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Autant qu'eux n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés, ils vont avoir une puissance d'égarement qui va tomber sur les gens pour qu'ils croient au mensonge. Puis nous autres qui gardent sa parole puis qui ont la persévérance dans sa parole, Dieu nous dit qu'il va nous garder aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voilà pourquoi qu'on doit combattre les esprits qui sont derrière les hommes. Les nations sont menées par des esprits qui ont gagné sur les individus. Puis un seul remède pour eux, c'est dans le verset que je viens de vous dire tantôt, l'amour de la vérité. C'est le seul remède dans lequel on peut avoir la victoire. Puis si je vous demande aujourd'hui, c'est quoi la vérité? Mais c'est deux choses. Premièrement, Jean 14:6, nous dit, Jésus lui-même nous dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est la vérité. Avez-vous l'amour de la vérité? C'est une des choses dans lesquelles ça peut vous donner d'être dans la victoire. Il y a une deuxième portion de la vérité qu'il faut, qui n'est pas sans moindre importance. Jean 17:17, que Jésus a dit lui-même encore, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Tu peux aimer Jésus, puis pas aimer sa parole, qui fait que tu es perdu. Faut que tu sois en amour, c'est l'amour de la vérité, c'est l'amour de Jésus et l'amour de la parole de Dieu qui va te permettre de combattre le bon combat et d'avoir la victoire sur l'ennemi. Pendant que les musiciens vont s'avancer. Si je vous pose la question ce matin, avez-vous l'impression de marcher dans la victoire présentement? Avez-vous l'impression d'être des gens combatifs spirituellement? Combatifs pour avoir plus de victoires dans votre vie, puis être efficace aussi pour le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes des gens combatifs qui avaient discerné le combat, puis que vous êtes capables de faire reculer les puissances des ténèbres? On va prier ensemble. On va demander au Seigneur de nous réintégrer dans notre vision, dans notre pensée, avoir sa pensée à lui, qu'on soit capable de voir spirituellement tout ce qui fait partie du monde invisible, puis toutes les diverses tentations ou les diverses attaques que l'ennemi peut essayer de faire pour devenir efficace. Pour, premièrement, pour marcher dans la victoire personnellement, mais aussi pour pouvoir, après ça, enlever la paille qui est dans l'œil des autres, parce qu'on saura comment que ça marche, le combat spirituel. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta vérité. Merci pour ta révélation, Seigneur, que tu nous donnes. Je demande, Seigneur, de graver ces paroles dans notre esprit et dans nos cœurs, qu'on puisse avoir les yeux ouverts tous les jours, pour qu'on puisse voir venir les combats spirituels, qu'on puisse prendre les moyens, les armes, les utiliser pour combattre et remporter les victoires. Seigneur, on est tanné de tourner en rond, on est tanné de marcher la face dans la poussière, dans la boîte, être foulé aux pieds par l'ennemi et par le monde. Ce qu'on veut, Seigneur, c'est de devenir une Église victorieuse. On veut voir ta main agir au milieu de nous par la foi. On veut voir les miracles, les signes, les prodiges qui viennent de ton esprit et rien d'autre. Purifie-nous, Seigneur, et dans le nom de Jésus, remplis-nous de ton esprit. Équipe-nous, fortifie-nous. Et tout cela, c'est pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Je prends encore aussi la parole pour demander s'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore fait le choix, qui n'ont pas vraiment l'amour, ou peut-être le choix de dire, déclarer publiquement, « J'ai l'amour de la vérité à partir de ce moment-ci. Je veux que Jésus rentre dans ma vie. Je veux que sa parole pénètre dans mon cœur et je veux marcher avec lui tous les jours de ma vie. » Si vous n'avez pas encore fait cette prière-là, levez votre main à l'endroit où vous êtes présentement. Je vais prier avec vous. Je vais vous demander de vous avancer en avant pour venir. Je vais prier avec vous afin que votre vie puisse avoir une nouvelle tournure. La Bible elle nous dit que celui qui est en Jésus, il est une nouvelle créature. Que les choses anciennes, c'est du passé, puis que toute chose est devenue nouvelle. Il y a une nouvelle vie qui s'offre devant vous. Une vie de liberté, une vie de joie produite par son esprit, une vie de victoire contre tout ce que l'ennemi a pu vous mettre dans, vous enchaîner au cours de votre vie. Pendant que les musiciens vont chanter, avancez-vous en avant, puis on va prier ensemble.